Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Samedi prochain, Arte va diffuser un documentaire exceptionnel sur l'une des pierres les plus précieuses de tous les temps, le célèbre diamant bleu. Les auteurs de ce film sont aujourd'hui les invités de Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Fatima, bonjour à tous. Vous aimez les diamants, vous, Fatima?
Oui. Eh bien,
alors vous allez être servi, parce que celui dont je vais vous raconter le parcours échevelé, incroyable, est en effet le plus célèbre de tous les diamants. C'est le diamant bleu, que l'on appelle ainsi parce que, ben, tout simplement, il est tout bleu, presque comme un saphir, mais alors en beaucoup plus lumineux, naturellement. Cette pierre s'appelle aussi le diamant Hope, du nom de son ancien propriétaire. C'est un nom paradoxal parce que Hope, en anglais, ça veut dire espoir.
Alors qu'en fait, ce diamant a la réputation de porter malheur.
Ah oui, c'est en tout cas ce que prétend la légende. C'est un diamant maudit qui a fait tourner bien des têtes et dont on peut désormais reconstituer avec certitude l'invraisemblable trajectoire depuis 3 siècles et demi. Puisqu'on peut le faire, eh bien évidemment, on n'allait pas s'en priver.
Alors si vous avez des questions à poser à Franck Ferrand et à ses invités, vous connaissez la marche à suivre. Envoyez-nous un mail sur le www.europe1.fr ou bien un message sur la page Facebook de l'émission Au cœur de l'histoire.
Au cœur de l'histoire du diamant bleu.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Cela fait un siècle tout rond que les Américaines sont folles de ce diamant. Du reste, à la Smithsonian Institution de Washington, où la pierre est actuellement exposée, elle reçoit chaque année, tenez-vous bien, la visite de quelques 10 millions de visiteurs, 10 millions de personnes qui se pressent pour voir cet extraordinaire diamant Hope. Alors, la fièvre américaine pour cette pierre, on peut dire qu'elle ne s'est jamais démentie depuis 1911, depuis qu'Evelyn Walsh MacLean, la jeune épouse de l'héritier américain Ned MacLean, se l'est fait offrir par son mari. Elle se l'est fait offrir à Paris, chez Cartier. C'est Pierre, l'un des trois fils d'Alfred Cartier, qui le lui a vendu. Pierre, à l'époque, est en charge de la clientèle américaine, ce qui fait qu'il sait tout à fait le genre d'histoire qu'il faut raconter aux jeunes et aux riches héritières pour les faire craquer. Eh bien, il raconte, c'est son don à lui. Et il raconte l'histoire de cette pierre en s'appuyant sur les récits de l'aventurier français du XVIIe siècle, Jean-Baptiste Tavernier. Un soir, dit-il, un voleur s'est laissé enfermer dans un temple en Inde. Son but était de dérober pendant la nuit le diamant qui ornait le front d'une grande statue en or du dieu Vishnu. Un diamant d'une taille et d'une pureté hors du commun, mais surtout d'une couleur exceptionnel, cette pierre était d'un bleu incomparable. Vous imaginez la jeune Evelyn qui ouvre de grands yeux. Le voleur s'est emparé de la pierre merveilleuse, poursuit Pierre Cartier. Mais au matin, quand on a rouvert les portes de bronze et qu'il a voulu en profiter pour s'enfuir, il s'est trouvé frappé par la foudre au seuil même du temple. Depuis ce jour, le diamant est réputé porter malheur à tous ceux qui l'approchent. « Oh, je vous rassure, précise le joaillier, tout ça n'est qu'une légende. Il faut faire rêver les héritières, mais il ne faut pas les faire fuir à toutes jambes, évidemment. » Evelyn MacLean est fascinée. « Eh bien, moi, elle me portera bonheur, dit-elle en s'en emparant et en la portant à son cou. Il me faut absolument cette pierre. » Et voilà comment le Hope Diamond est entré en possession de la jeune milliardaire. Ce n'est pas n'importe qui, Evelyn MacLean, évidemment. C'est une personnalité assez lancée à Washington. Elle est notamment la meilleure amie de Madame Harding, celle qui va donc devenir la femme, l'épouse du président Harding, la première dame des États-Unis. Evelyn est assez enviée dans le tout Washington. Elle est assez présente dans les soirées pour que se multiplient les photos d'elle dans la presse, des photos où elle apparaît souvent arborant le splendide joyau qui devient une pierre extrêmement célèbre. Et d'autant plus qu'on tire de son histoire ou de sa supposée histoire et malédiction, on en tire un film, enfin d'abord un livre, puis un film en 1921. Donc ça devient une sorte de mythe national. Est-ce que le joyau a porté bonheur ou malheur à Evelyn McLean, les superstitieux auraient plutôt tendance à pencher pour la deuxième hypothèse. Après tout, la vie d'Evelyn sera semée de drames. Elle va perdre ses deux enfants dans des circonstances horribles, puis son mari, qui est devenu fou et qui devra être interné, enfin elle-même mourra de pneumonie à l'âge de 60 ans seulement. À sa mort, après la dernière guerre, le joyau est racheté par le célèbre joaillier new-yorkais Harry Winston, et c'est Harry Winston qui, après quelques années, choisit d'en faire don à l'État américain. On raconte souvent, vous savez, la façon dont s'y est pris Harry Winston pour faire parvenir sans risque le diamant à la Smithsonian Institution. Est-ce qu'il allait affréter un camion blindé ? Est-ce qu'il allait l'emmener lui-même, le diamant, dans une mallette attachée à son poignet ? Eh bien non. Harry Winston s'est dit que la méthode la plus discrète serait encore la plus sûre et il a fait partir le joyau par la poste, comme un simple colis tout juste recommandé. Au passage, c'était quand même une belle publicité pour les postes américaines. Alors, pourquoi ce diamant si célèbre est-il appelé Hope Diamond ? Eh bien, c'est son nom depuis le milieu du 19e siècle. En effet, en 1839, cette pierre figure dans l'inventaire après décès du banquier londonien Henry Philip Hope, d'où ce nom de Hope Diamond. C'est une pierre évidemment exceptionnelle, de taille visiblement récente, une taille très 19e, et qui titre 45 carats et demi, ce qui est quand même assez colossal, évidemment. Vous voyez un peu le petit cabochon que ça peut faire. En 1901, le dernier descendant de Hope, Sir Francis, vend le diamant au joaillier Joseph Frankel, qui lui-même trouve à le négocier en 1908 à un marchand et collectionneur turc qui s'appelle Selim Habib. Là, on est en 1908, Selim Habib ne va pas garder la pierre longtemps. Dès l'année suivante, un joaillier français, Rosneau, s'emporte acquéreur, mais pour le céder à son tour, presque aussitôt, à la célèbre maison Cartier, rue de la Paix, la maison de Cartier où nous l'avons retrouvé tout à l'heure, le diamant. Vous voyez, j'allais dire, la boucle est bouclée et la suite, vous la connaissez. Ce qu'il faut que je vous dise à présent, c'est que ce diamant Hope, dès cette époque, a attisé la curiosité d'un certain nombre de collectionneurs et de passionnés, et que l'origine de cette pierre a d'emblée suscité bien des interrogations. Dès 1858, en vérité, Charles Barbeau a fait le rapprochement entre le Hope et le célèbre diamant bleu de la couronne de France qui avait disparu depuis la Révolution. Et si, s'est demandé Barbeau, et si celui-là n'était qu'une version retaillée de celui-ci. D'ailleurs, quand vous mettez les deux diamants, si je puis dire, quand vous les comparez, vous vous rendez compte que le diamant Hope est plus petit que le diamant bleu, puisque le diamant bleu titrait 69 carats. Les soupçons, par la suite, n'ont fait que se préciser. Et plus d'un siècle après, dans les années 80, l'historien des gemmes, Bernard Morel, était convaincu de cette filiation. Je me rappelle moi-même avoir, dans les années 90, publié sur ce sujet l'un de mes tout premiers articles. Ça me ramène aux sources, cette histoire d'aujourd'hui. Mais on n'en était à l'époque qu'au stade de l'hypothèse. C'était des hypothèses très fermes, très argumentées, mais une hypothèse qui pouvait encore laisser la place au doute. Eh bien, permettez-moi de vous le dire, depuis quelques mois, cette énigme a été résolue. Il n'y a plus de doute du tout. Et ce, avant tout, grâce à une découverte effectuée par l'un de mes invités d'aujourd'hui, le professeur François Farge du département de minéralogie du Muséum national d'histoire naturelle. Le 8 décembre 2007 exactement, le professeur est alerté par un technicien qui a posé la main, un peu par hasard, vous savez comment ça se fait quand on fait des rangements du classement, il a trouvé un petit écrin en cuir rouge, une sorte de petite boîte, qui contient un curieux objet. Cet objet, c'est le modèle en plomb de ce qui paraît être une pierre taillée, pierre de dimension stupéfiante au passage. Le professeur Farge identifie cet objet, il n'a pas beaucoup de mal à l'identifier, il s'agit d'un moulage, comme ceux que faisaient les joailliers pour conserver une trace de leurs plus belles pièces. Vous savez d'ailleurs que le phénomène de la présentation était très répandu dans l'ancienne France. Lorsqu'on devait faire que ce soit un monument, une statue, simplement même un tableau, eh bien tout ça était toujours présenté au commanditaire, c'est-à-dire qu'on lui montrait un modèle de la chose à réaliser. C'était encore plus vrai ce que je suis en train de vous dire en architecture. Je ferme la parenthèse, mais on est tout à fait dans ce domaine-là. On a donc là un modèle de l'objet, du joyau. Et Le professeur a tout de suite sa petite idée sur l'identité de la pièce en question. Il veut néanmoins s'en assurer, alors il se rend à la Bibliothèque nationale. Il se fait communiquer un ouvrage de l'historien Germain Babst, ouvrage dans lequel figure la seule représentation connue à cette date-là du joyau. Représentation à taille réelle, alors ça c'est toujours assez frappant, parce que François Farge n'a qu'à poser le modèle de plomb sur la gravure et il se rend compte que l'ajustement est parfait, tout correspond exactement, la silhouette, hein, la taille, les facettes. 7, pourtant extrêmement... tout correspond. Pour le professeur Farge, c'est le début d'une enquête fabuleuse à la poursuite d'un chef-d'œuvre de joaillerie taillé au XVIIe siècle à la gloire de Louis XIV, le grand diamant bleu de la couronne de France.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et jusqu'à 14h30, Franck Ferrand, vous faites rêver les femmes aujourd'hui puisque vous nous contez l'histoire du diamant le plus célèbre du monde.
Ah oui, les femmes et quelques hommes, car les passionnés de gémologie et de belles pierres sont des deux, dans les deux sexes, si je puis dire. Mm-hmm. Alors tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette émission, nous allons pouvoir revenir en compagnie du professeur Farge sur l'incroyable enquête qu'il a menée à la poursuite du diamant bleu. C'est du reste le titre en forme de clin d'œil d'un documentaire réalisé par Thierry Piantanida, que vous pourrez voir sur Arte dès samedi. Mais avant d'entrer dans le détail de ce qui est une véritable enquête policière, j'aimerais vous familiariser un peu avec l'histoire hors du commun de ce très gros joyau dans lequel le Hope Diamond a donc été retaillé, le diamant bleu de la couronne de France. Tout a commencé dans le sillage d'un personnage comme on les aime. Vous savez, ces espèces de héros de romans picaresques auxquels on pourrait sans peine consacrer non pas une mais même plusieurs émissions. En l'occurrence, il s'appelait Jean-Baptiste Tavernier. Qui est-il ce Jean-Baptiste ? Ce, disons, un aventurier issu d'une famille de géographes. On dessine des cartes dans sa famille depuis au moins deux générations. Lui a déjà écumé l'Europe à l'âge de 23 ans. Du reste, il parle la plupart des langues d'Europe. Et puisque désormais, ce continent n'est plus assez grand pour lui, eh bien, on va le voir courir le monde et jusque très loin, jusqu'en Asie. Et là-bas, grâce à cette espèce d'abattage inouï qui n'appartient qu'à lui et aussi grâce à quelques cadeaux somptueux, il faut bien le dire, on le voit tisser tout un réseau de relations commerciales. Tavernier devient notamment un des intimes d'un des plus grands souverains de l'époque, le Shah de Perse. Il est reçu par le grand Mogol qui règne à cette époque sur un empire immense, de Kaboul jusqu'au plateau du Deccan. Il sera un des premiers négociants à rapporter en Europe les précieux diamants de Golconde. Alors Golconde, voilà un nom mythique entre tous. Golconde, c'est ce royaume de légende qui a tant fait rêver le monde occidental, puisqu'à l'époque, c'est de là qu'est censé provenir la quasi-totalité des grandes gemmes que l'on connaisse. Le grand Mogol reçoit ses visiteurs, c'est dans des salons d'apparat qui n'en finissent plus. Tout ça paraît sorti tout droit des mille et une nuits. Il les reçoit sur des trônes tous plus précieux les uns que les autres, constellés de milliers de diamants, de rubis, d'émeraudes. Enfin, c'est un rêve, c'est un conte, tout ça. Le problème avec ce grand Mogol, c'est qu'il est richissime et qu'il n'éprouve donc aucun besoin de céder ses diamants à quiconque. Alors, comment Tavernier s'y est-il pris pour le convaincre ? Ça, l'histoire ne le dit pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est bien auprès de lui, hein, c'est bien auprès du grand Mogol qu'il a acquis les pierres proprement fabuleuses qui vont faire sa fortune. L'aventurier en rapporte des sacs entiers en France. Il se précipite au Louvre pour les présenter à Louis XIV. Alors attention, la collection qui surgit sous les yeux du jeune roi paraît tenir du miracle. Il y a là, réunis dans une opulence à peine croyable, plus de 1000 diamants de toute taille, surtout des gros diamants. Le roi est ébloui, au propre comme au figuré. On est à cette époque, vous savez, Mazarin est mort depuis quelques années. Maintenant, le roi est dans son règne personnel. Il est en train d'acquérir des collections extraordinaires, notamment de filigranes, d'œuvres d'art italiennes, de pierres dures, etc. Le château de Versailles n'existe pas encore, ou quasiment pas à l'époque. On peut encore dépenser des sommes importantes pour des objets somptuaires. Et finalement, Louis XIV achète les 47 plus gros diamants de Tavernier, et ce pour une somme colossale, l'équivalent l'équivalent de près d'une tonne d'or pur. Vous voyez, c'est véritablement un investissement que fait Louis XIV et il le fait évidemment au nom de l'État. Et pour faire bonne mesure, il en profite pour anoblir le négociant qui devient donc monsieur de Tavernier. Vous avez bien compris qu'au milieu de ce tas de cailloux assez inédit se trouve beaucoup plus gros que les autres. Et de cette couleur bleue qui suffirait à le distinguer, notre fameux diamant bleu. Je précise qu'à cette époque, il est encore presque brut ce diamant, ce qui en fait un objet de curiosité plus qu'une pièce de joaillerie. Il n'est pas encore aussi brillant qu'il le deviendra, bien entendu. Du reste, le souverain l'expose dans un premier temps au sein de son célèbre cabinet de curiosité du château de Saint-Germain. Seulement, Louis XIV nourrit d'ores et déjà de tout autre projet pour son très beau diamant bleu.
C'était le ballet de Xerxès, Jean-Baptiste Lully.
Et ça, c'est pas facile à dire. C'est le petit piège du jour.
Je suis quasiment arrivé.
Louis XIV confie sa pierre bleue au meilleur joaillier de ce temps, l'inégalable Jean Pitan, charge à lui de concevoir une taille digne de ce monstre. Et c'est peu dire que le maître y met tout son cœur. En vérité, il va se surpasser. Il lui faut 2 années pour mettre au point le dessin définitif de son chef-d'œuvre et 2 années encore pour l'exécuter. Et quand on parle de chef-d'œuvre, la taille 78 facettes est à double symétrie impaire, une complexité sans précédent. C'est digne de Léonard de Vinci, cette histoire. Le diamant bleu, quand il sort enfin des mains du maître joaillier Pitan, brille de tous ses feux. La lumière qu'il l'inonde est renvoyée de face en face dans un jeu étincelant de reflets avant d'être expulsée vers l'observateur qu'elle ne peut qu'éblouir. Désormais, Louis XIV le premier et après lui ses successeurs, les rois de France auront fierté à arborer cette gemme, taillée donc à 69 carats. Louis XV va le faire sertir avec un énorme rubis taillé en diamant, taillé en dragon du reste, et va le faire sertir sur les insignes de sa toison d'or. Il en fera donc le fleuron de la célébrissime parure de couleur réservée aux grandes occasions et qui réunit ce que la couronne possède de plus extraordinaire en fait de saphir, d'émeraude, de rubis. Oh, rien à côté du diamant bleu.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et aujourd'hui, une émission consacrée au plus beau diamant du monde, le diamant bleu.
Le diamant bleu de la couronne de France. Alors, évidemment, au moment où arrive la Révolution française, ce ne sont pas des périodes très faciles qui s'annoncent pour les joyaux de la couronne, qui sont exposés du reste au nouveau garde-meuble sur la place Louis XV, rebaptisée place de la Révolution. C'est notre place de la Concorde à nous, hein, tout simplement. Et le garde-meuble en question, c'est le fameux hôtel de la Marine dont on parle tant en ce moment. La monarchie s'effondre le 10 août 1792. La République est proclamée en septembre sur fond de massacres dans les prison et de grands périls aux frontières. On est là vraiment dans une époque troublée s'il en fut jamais. Les armées austro-prussiennes ont Paris en ligne de mire et la capitale est livrée à toutes sortes de débordements. C'est dans ce contexte que les on peut dire un contexte vraiment glauque. Hein, donc, que va se produire le plus grand cambriolage de tous les temps? Un vol organisé, bénéficiant d'étranges complicités, ça nous entraînerait un peu loin d'évoquer lesquelles, un cambriolage qui va durer quand même 4 jours, ou plutôt 4 nuits. Le casse du siècle, que dis-je, du millénaire, a pour cadre le nouveau garde-meuble et pour cible les joyaux de la couronne. Je vous ai dit que c'est un vol qui va s'éterniser pendant près d'une semaine. À la fin, le nombre des malfrats se hissera jusqu'à 60, 65. Vous avez des gens qui sont là accompagnés de petites femmes. Certains vont jusqu'à festoyer sur place à la lueur des ci-devant bougies royales. Au sein de cet événement nébuleux, et qui, 2 gros siècles plus tard, est loin d'avoir livré tous ses secrets. Au milieu de ce capharnaüm, dans ce cambriolage monstre, il convient d'isoler, de distinguer l'œuvre d'une première équipe de voleurs, à la fois très habile et très bien renseignée. C'est cette équipe qui connaît les réserves comme sa poche, c'est elle qui fracture les armoires principales, c'est elle qui s'empare des pièces majeures, dont la parure de couleur, naturellement, avec son diamant bleu. Dès que ce vol des joyaux est rendu public, le scandale, on peut dire, est énorme. Roland, qui est ministre de l'Intérieur, est sommé de s'expliquer à la tribune de l'Assemblée, ne sera du reste pas le seul. La toute jeune République est humiliée et certains de ses responsables, pas tous, vont s'acharner à mettre la main sur les coupables. Alors, comme par hasard, ce sont un peu les lampistes qui vont payer dans cette affaire. Certains seront guillotinés sur les lieux même de leur forfait. C'est du reste la raison pour laquelle la guillotine, qui initialement était dressée place du Carrousel, se retrouve sur la place de la Révolution, où Louis XVI lui-même sera exécuté très bientôt. Or, grâce aux enquêtes menées habilement dans les milieux louches de Paris, mais aussi grâce à une cascade de dénonciations spontanées, notamment dans les anciens milieux royalistes qui, à cette époque, sont en train, pour une partie en tout cas, de tourner leur veste, la plupart des grands joyaux, inécoulables du reste, va pouvoir être récupérés. Mais la toison d'or, donc cette espèce de parure extraordinaire sur laquelle figure le diamant bleu, cette toison d'or, elle, est portée disparue. Elle s'est évanouie, on peut dire, dans la nuit parisienne. Et ce sont les passionnés, ce sont les érudits du XIXe siècle qui s'emploieront à retracer son parcours depuis cette nuit fatidique de septembre 1792. Grâce à eux, on apprend que le voleur de la parure, un certain Cadet Guillot, serait passé outre-Manche, d'où la pierre, dit-on, aurait gagné Constantinople, à moins qu'elle ne soit tout simplement, tout discrètement, restée cachée à Londres, cacher le temps du délai de prescription. Vous avez bien compris que dans la deuxième partie de l'émission, nous allons évoquer l'identité entre le grand joyau de la couronne de France et puis le Hope Diamond américain. Je vous propose d'écouter un extrait du documentaire sur lequel nous allons parler.
Il faut attendre un demi-siècle après le vol de 1792 pour qu'un joaillier français fasse le rapprochement entre le diamant bleu et le Hope. Et c'est encore un siècle plus tard, en 1988, qu'un autre joaillier tente de prouver ce lien entre les deux pierres.
Alors le premier qui a essayé de véritablement prouver la filiation entre le diamant bleu de la couronne et le diamant Hope, c'est Bernard Morel. Alors pour cela, il s'est basé sur la gravure publiée par Pabst, qui montre un tracé très précis du diamant bleu de la couronne à l'échelle. Et donc, il a pris le tracé de ce diamant bleu par Pabst et par-dessus, il a superposé le tracé du diamant Hope. Et là, problème, parce que à de nombreux endroits, le diamant Hope est beaucoup plus grand que le diamant bleu de la couronne. Donc, effectivement, ça ne marche pas. Le diamant Hope ne peut pas venir du diamant bleu de la couronne.
Morel ne s'avoue pas vaincu. Il cherche d'autres données et trouve celle d'un physicien qui a pu mesurer le diamant peu de temps avant le vol. Elle donne, par chance, des dimensions légèrement plus grandes que celles de Pabst.
Alors, est-ce qu'on peut, scientifiquement parlant, utiliser un tracé du 19e qu'on modifie avec des données du 18e, tout simplement pour vérifier cette petite histoire qui traînait dans le petit monde des joailliers qui voulait que le diamant bleu français était lié au diamant bleu Hope? C'est pas parfaitement rigoureux.
quand je vous dis qu'il s'agit d'une véritable enquête policière. Voyez tous les recoupements, c'est passionnant. Les auteurs de ce documentaire sont avec nous dans ce studio et nous les retrouvons aussitôt après le flash.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Pierres précieuses et joailleries sont au programme de l'émission du jour consacrée à la malédiction du diamant bleu.
Cette malédiction du Hope Diamond, dont on sait maintenant, grâce à mes invités, qu'il s'agit du diamant bleu de la couronne de France. Les invités, ce sont donc le professeur François Farge, qui nous fait l'amitié d'être ici. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette enquête extraordinaire, qui fait l'objet d'un documentaire qui sera diffusé sur Arte samedi soir, et d'un ouvrage paru chez Michel Lafon, que vous avez coécrit avec Thierry Piantanida, qui est également des nôtres et qui est l'un des deux réalisateurs du documentaire, avec Stéphane Bégouin. C'est bien ça.
C'est bien ça.
Donc, c'est une enquête passionnante. J'aimerais tout de suite, avant que nous n'entrions dans le détail de toute cette affaire, que nous tordions tout de suite le cou à une sorte de légende. La plupart des questions qui m'arrivent via Internet et via Facebook demandent si ce Hope Diamond a un rapport quelconque avec le fameux cœur de l'océan du film Titanic. On sait que James Cameron s'est inspiré du Hope Diamond pour le scénario de Titanic. On a pensé à une époque, certains ont prétendu que le diamant bleu avait coulé avec le paquebot, mais il n'en est strictement rien en fait. Thierry Piantanida.
C'est plutôt une question pour François, ça.
Oui, absolument aucun rapport. Mais bon, effectivement, je pense que Pierre Cartier avait bien compris qu'un très beau diamant bleu comme ça fait vendre. Et effectivement, on retrouve ces arguments, effectivement, mais même dans la production actuelle.
En tout cas, ce qui est amusant, c'est que dans le film de James Cameron, dans Titanic, la forme que les producteurs ont donné à la pierre, eh bien celle du grand diamant de la couronne de France et non pas celle du Hope Diamond. Hein.
C'est une forme qui est effectivement assez proche, mais pas complètement.
Elle est trop longue.
Elle est aussi belle que celle du diamant bleu français.
Alors, ce diamant bleu, vous l'avez définitivement identifié à travers ce qu'il en reste. Grâce à cette découverte que vous avez faite. Donc, c'était en décembre 2008.
2007, en fait.
Le 8 décembre 2007, voilà, c'est ça. C'était donc au Muséum National d'Histoire Naturelle où vous œuvrez, vous, professeur
Farge. Oui, alors effectivement, donc, à l'époque, j'étais en charge des collections et je venais tout juste d'arriver, donc il fallait faire une espèce de, pour moi, un inventaire, notamment des collections que je connaissais pas très bien. Et donc, on a décidé de commencer par les pierres précieuses et en particulier les diamants. Et effectivement, dans un tiroir où j'étais censé voir que des diamants d'Inde, de petite taille, parce que malheureusement on n'a pas de gros diamants, d'un seul coup au milieu de tout ça, on voit un gros truc noir qui faisait 3 cm sur 2,5,
qui brillait pas tellement,
qui brillait pas du tout, qui était tout noir. C'était vraiment le vilain petit canard. Alors on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans, qu'est-ce que c'est? Et alors moi, comme je suis toujours un peu attiré par les choses un peu atypiques comme ça, donc voilà. Voilà, c'est ainsi que j'ai mis la main sur ce moulage en plomb.
Que c'était ce moulage et que ce moulage était bien, vous l'avez identifié très rapidement, était bien le moulage du grand du diamant bleu.
En fait. Oui, ça a pris un quart de seconde. Au début, j'étais persuadé que c'était le moulage d'un autre diamant avec une forme triangulaire qui s'appelle le Nasak. Mm-hmm. Et en le retournant, alors là, les frissons m'ont parcouru de haut en bas. Et je savais pertinemment, et je l'ai dit avec Jean-Marc, le technicien avec qui je travaille, que c'était un moment absolument exceptionnel parce que surtout on avait enfin un modèle en 3D du diamant bleu et non pas une gravure qui allait nous permettre de faire la comparaison avec le diamant Hope.
Il a été extrêmement peu représenté, ce diamant bleu, hein. On possède deux représentations, en fait, c'est ça?
Alors oui, il y en avait qu'une qui existait. Et on a beaucoup de chance parce que quasiment en même temps, on a redécouvert le plomb. On a redécouvert en Suisse une gravure d'époque du diamant bleu qui était très, très peu connue avant.
Et en couleur, celle-là?
Et en couleur, de surcroît, qui ne laisse aucun doute sur l'objet.
Ce qui vous a permis de reconstituer la célèbre parure de couleur de Louis XV, cette toison d'or extraordinaire, reconstituée, je dis tout de suite, en matériaux synthétiques. antique, hein, bien entendu. Oui.
Alors, on a reconstitué que la toison, parce que malheureusement...
Oui. La parure était beaucoup plus grande, oui, bien sûr.
Oui, il y avait les croix du Saint-Esprit, il y avait plein de choses. C'était un ensemble absolument extraordinaire, mais effectivement, la toison de la parure de couleur, c'était vraiment la grande pièce de résistance. C'est quasiment la pièce fondatrice de la grande joaillerie française. Donc, c'est pour tous les joailliers, les grands joailliers, c'est vraiment une espèce de saint Graal. Et avec Herbert Horowitz à Genève, et puis grâce à l'aide de tout le monde, Gédéon, Thierry et plein d'autres, on s'est attelé à faire l'impossible. Et puis Herbert y est arrivé 4 ans après.
Alors, ce qui est tout à fait inouï, on va y venir dans un instant, c'est que vous avez pu définitivement identifier les deux pierres, hein, dire que c'est bien une seule et même. Alors, ce qu'on entend dans l'extrait que nous venons de diffuser juste avant le flash de 14h, ce qu'on entend, c'est que Bernard Morel, quand il s'est penché d'abord sur la question, s'est trouvé confronté à des dimensions qui ne correspondaient pas. C'est-à-dire que le Hope Diamond était trop grand pour loger, si je puis dire, dans le diamant bleu de la couronne de France.
Oui, sur la base de la gravure de 1889, effectivement, ça coïncidait pas. Mais comme les gens étaient absolument persuadés que de toute façon le diamant bleu de la couronne avait été retaillé pour faire le Hope, alors les gens ont essayé de trouver à faire la démonstration. Malheureusement, il y avait un autre candidat, hein, en fin de compte, et le Mohawk Blue, qu'on appelle aussi Teroshenko, revendiquait disons la paternité royale. Alors c'était pas si simple que ça.
Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il ne peut plus revendiquer cette paternité?
Eh bien, il a une forme qui est beaucoup trop allongée, qui est complètement incompatible avec le moulage en plomb que l'on a retrouvé au muséum.
Et puis, vous avez retrouvé l'inscription, l'enregistrement, en fait, la pièce d'enregistrement de ce moulage.
Ah oui, alors là, c'était la deuxième bombe.
Oui.
C'était le deuxième effet, comme on dit chez les jeunes. Effectivement, après avoir redécouvert le moule, qui nous a permis d'envisager donc la comparaison avec le diamant Hope, et surtout d'imaginer de pouvoir reconstituer en réalité virtuelle le diamant tel que Louis XIV l'a porté, c'était vraiment ça le grand objectif. En fait, on a été dans les archives et là, information absolument explosive, ce monsieur Hope dont vous parliez en début d'émission, fils d'un richissime banquier qui avait effectivement le diamant retaillé dans ses collections à sa mort, et bien les archives du muséum disent que c'est lui qui a acheté le diamant au receleur, le diamant avant la retaille. Et donc c'est lui qui est au centre.
Alors comment le disent-elles? Elles le disent de façon indirecte.
Ah oui, alors c'est très subtil. Oui, faut et j'ai redécouvert d'autres documents il y a 15 jours qui nous permettent de confirmer la chose. En fin de compte, les archives disent modèle en plomb d'un diamant remarquable par sa limpidité. On fait aucune référence à la couleur, appartenant à Monsieur Hope de Londres.
Voilà. Et là, c'est ça. Alors avec deux P peut-être, mais tout de même. Oui. Hein.
Et alors maintenant, on est vraiment sûr. Et là, c'est les archives d'il y a 15 jours. On est vraiment vraiment sûr que c'est Monsieur Henry Philip Hope et pas sa succession, parce que on a ce monsieur Achard qui a donné ce moulage du diamant bleu au muséum, mais de façon très confidentielle. Il avait donné une troisième pierre qui était un très grand saphir, mais cette réplique on l'a pas retrouvée au muséum avant. Je l'ai retrouvée qu'il y a 15 jours, et donc j'ai pu la comparer aux pierres du catalogue de la collection de Hope en 1838. Et effectivement, c'était le plus gros de tous les saphirs de la collection. Donc ce monsieur Achard vendait les plus grosses pierres bleues à Monsieur Hope, y compris ce saphir de 133 carats. Trois petits points.
Alors, le diamant a été retaillé pour une raison évidente, c'est qu'il a été volé. Il a été volé dans les réserves du garde-meuble de la couronne qui devenait celui de la République. Donc on est en septembre 1792. Il passe outre-Manche. Il disparaît. Il disparaît pendant toute la durée du délai de prescription, puisque on voit sa trace réapparaître en 1812, c'est-à-dire pile 20 ans après.
Il y a effectivement deux coïncidences troublantes. Il y a le délai de prescription de 20 ans pour un vol, mais il n'y a pas de prescription pour le recel. Donc ça résolvait pas tout.
Oui. Donc il fallait le tailler.
Ouais, fallait le retailler. Et ce qu'il y a eu, et ce que je pense qu'il y a eu qui a été vraiment dramatique dans la décision de Hope de retailler le diamant bleu, c'est le blocus continental que Napoléon impose sur le commerce britannique,
bien sûr, oui.
qui fait qui dévalue la livre sterling de 90% et donc qui ruine les banquiers, dont Hope, lui, grand banquier des grands, du roi d'Angleterre et de tas d'autres. Donc il est obligé de gager vraisemblablement le diamant pour pouvoir récupérer du liquide. Et il ne peut pas gager le diamant d'origine parce qu'il aurait été confisqué par la justice britannique. Donc il n'avait pas d'autre choix que de commettre l'irréparable, c'est-à-dire de le faire retailler.
Alors ce que nous demande un de nos plus fidèles auditeurs, Grégoire, c'est quelle est l'attitude aujourd'hui du gouvernement français, puisqu'après tout, si vous avez définitivement identifié le diamant de la couronne de France dans le Hope Diamond, les autorités françaises sont tout à fait fondées à réclamer sa restitution.
Alors, je ne suis pas juriste, je ne connais rien à tout ça, j'ai simplement un avis purement personnel. C'est que le diamant qui est Hope, qui est aux États-Unis, contient 2/3 de la matière du diamant bleu royal, mais la forme n'y est plus. Et ce qui était très très beau, c'était la première fois, en première partie, c'est la matière du diamant bleu qui était exceptionnelle, mais aussi la taille incroyable que Piton avait fait. Et je pense que le véritable trésor, c'est plutôt le plomb.
Cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. Square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
Diamonds are a girl's best friend. Les diamants sont les meilleurs amis d'une fille, chantée Marilyn Monroe, sauf peut-être celui dont nous parle Franck Ferrand aujourd'hui, le diamant bleu, son histoire et sa malédiction.
Alors justement, qu'en est-il de cette malédiction, Thierry Piantanida? Est-ce qu'on peut dire que c'est une pure légende, c'est une invention de joaillier pour faire mousser son produit, ou est-ce qu'il y a quand même des éléments troublants dans le destin de ce Hope Diamond? Donc c'est-à-dire, je précise pour les personnes qui prendraient en cours, ce diamant Hope, c'est le diamant retaillé, l'ancien grand diamant bleu de la couronne de France qui a été retaillé au tout début du 19e siècle et qui depuis a connu un grand nombre de propriétaires, et notamment aux États-Unis, puisqu'il est arrivé aux États-Unis en 1911. Est-ce qu'il porte vraiment malchance ?
À écouter les Américains qui se précipitent et qui échange autour du fameux diamant dans sa vitrine, c'est évident que c'est la première chose qui les intéresse. Et les grands-mères qui parlent à leurs petits-enfants, regarde le diamant, il porte malheur. Première chose qu'on dit, c'est ça qu'on entend, c'est incroyable. Et ça fascine le public américain. Mais qu'on peut pas imaginer.
Vraiment, ça n'a pas empêché Louis XIV de régner tranquillement 59 ans, Louis XV 51, si je ne m'abuse, enfin, etc.
Mais il semblerait qu'il y ait eu une panne dans cette malédiction quelque part, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, vous en avez parlé. Tavernier, il le raconte qu'il y a bien des malédictions autour des diamants qui viennent d'Inde. C'était en fait une assurance très commode pour éviter qu'on les vole dans les temples. Il suffisait de dire que le gars qui allait voler un diamant dans un temple serait foudroyé à la sortie. Ça calme les ardeurs des voleurs.
Oui.
Alors, mais après, on est forcé de constater dans les archives, n'est-ce pas François, que au temps de Louis XIV, c'est pas une préoccupation, ça ne fait pas partie
Pour essayer de sauver la mise aux plus superstitieux d'entre nous, on pourrait peut-être dire que ce diamant qui portait chance lorsqu'il était dans sa pureté et dans l'éclat que lui avait donné Piton, s'est mis à porter malchance à partir du moment où on a voulu le retailler pour le camoufler. Ça pourrait être ça, peut-être.
Oui, mais on pourrait aussi dire que Piton est mort 3 ans après avoir fini de le retailler, que sa veuve a été emprisonnée avec la révocation de l'édit de Nantes en 1783, et elle a terminé dans une prison à Angers avant d'être expulsée du royaume. Donc effectivement, on pourrait toujours trouver, même pendant la période faste, Des événements très sombres, mais effectivement...
Ce qui est certain, en tout cas, c'est que c'est bien un miroir. Hein, ces grands joyaux, on y projette à peu près tous les fantasmes.
Voilà, finalement. C'est ça. Et effectivement, c'est devenu une manie, je dirais, dans la deuxième moitié du 19e siècle, d'associer des légendes aux diamants. Voilà, il y a eu l'arrivée des grands diamants d'Afrique du Sud, qui ont enrichi la couronne britannique.
Ça a tout changé, évidemment. Hein.
Voilà, alors donc ça fait une publicité absolument gigantesque, parce que c'est des découvertes récentes. La couronne britannique est affublée de petits cailloux, on va dire, entre guillemets, d'un seul coup à les plus beaux diamants du monde.
Alors
etc.
Justement, puisque vous en parlez, quels sont aujourd'hui, parce qu'on parle toujours de ce diamant Hope de la Smithsonian Institution de Washington, mais quels sont les grands diamants célèbres, dont certains sont en France d'ailleurs aujourd'hui.
Oui, on a effectivement au Louvre, on a deux diamants absolument fabuleux, même trois, on pourrait dire. Donc le Régent d'abord de 140 carats, qui est une pierre absolument extraordinaire, qui a été taillée il y a peu de temps après le diamant bleu.
Alors
donc,
ce n'est pas un diamant bleu, il est tout à fait blanc celui-là.
Alors blanc, mais légèrement bleuté, ce qui fait sa grande valeur. C'est ce qu'on recherche le plus en fait, le blanc légèrement bleuté, très légèrement céleste. Alors ça, alors effectivement, 140 carats, c'est peut-être rien par rapport au premier diamant de la couronne britannique, qu'en fait 550, légèrement plus de 550 carats. Mais par contre, effectivement, il y a toute l'histoire dans laquelle il a été trouvé en Inde en 1698, retaillé en Angleterre, revendu au Régent de France. Enfin, il y a toute une histoire qui est absolument extraordinaire.
Belle histoire, le Régent, oui.
Que, effectivement, le Cullinan, bon, il a été très gros, taillé, mis sur la couronne britannique, et puis voilà.
Oui. Ça fait moins rêver. Enfin, quoique, c'est même pas le moment de dire ça.
Au moment où on est
en train de se préparer à ces grandes festivités britanniques et à ce mariage vendredi prochain. Les autres très grands diamants, quelques noms?
Alors, quelques noms, on pourrait citer, à l'époque, au XVIIe siècle, existait un grand diamant qui s'appelait le Grand Mogol de 280 carats. Donc, on voit bien les diamants qui étaient en Inde chez le Grand Mogol étaient beaucoup plus gros que tout ce qui existait en Occident. Donc, un diamant qui a aussi disparu. Hein. Il y a eu deux grands casses du millénaire au XVIIIe siècle. Le casse du garde-meuble dont vous parliez, mais il y a aussi le casse du trésor à New Delhi des grands moguls, où des grands diamants ont disparu. Et puis, bon, il y a eu tous les Cullinan, et puis il y a tous les diamants du cardinal Mazarin, qui a peut-être donné le virus à Louis XIV des beaux diamants.
En tout cas, Mazarin, collectionneur, a sans doute éduqué le roi. Ça,
oui,
c'est presque incontestable.
Oui, très certainement. Chez Louis XIV, il y avait une réelle passion du monde minéral. On le voit bien, collectionneur non seulement de diamants pour la couronne, mais aussi de diamants, comme vous le disiez, pour son cabinet d'histoire naturelle. Et on le voit bien à travers l'achat du diamant bleu. À cette époque-là, à l'époque de Louis XIV, les diamants de couleur n'étaient pas du tout appréciés. C'était quasiment un geste très fort politiquement d'acheter un grand diamant bleu, parce qu'a priori, même Tavernier, on le sent bien chez Tavernier, c'est pas l'extase sur le diamant bleu. C'est depuis le XXe siècle que les diamants bleus ont été finalement estimés à leur juste valeur. Et quelque part, on voit vraiment Louis XIV vraiment un très grand précurseur de la gémologie moderne.
Alors aujourd'hui, quelles sont les très grandes collections? Alors vous avez parlé bien sûr des joyaux de la couronne britannique. Quelles sont les très grandes collections? On pensait à celle du Shah d'Iran à une époque.
Oui, c'est toujours une très très grande collection avec notamment des séries de diamants roses tout à fait exceptionnelles. Il y a plusieurs collections privées avec de très très belles, de très belles pièces. La collection Mouawad notamment, où il y a le Mouawad Blue hein, qui aurait aimé avoir des origines royales françaises. Et il y a des tas d'autres. Il y a De Beers, ça a des collections extraordinaires. Mais peut-être la plus fabuleuse de toutes, c'est la collection des fonds russes, qui est au Kremlin à l'heure actuelle,
c'est très spectaculaire. Ça. Oui, et encore, on ne voit pas tout.
On ne voit pas tout, mais justement, ils ont gardé des diamants bruts, qui étaient beaux, ils en ont taillé, ils ont des diamants antiques, comme le diamant Shah d'Iran. C'est fabuleux.
Nous allons venir sur les grands personnages de cette affaire, enfin en tout cas avec le temps qui nous reste dans un instant.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Franck Ferrand accompagné aujourd'hui pour parler de la fabuleuse histoire du diamant bleu de François Farge, professeur de minéralogie au Muséum National d'Histoire Naturelle, et Thierry Piantanida, co-auteur avec François Farge du roman historique Le Diamant Bleu chez Michel Lafon.
C'est pas tout à fait un roman historique, hein, c'est un livre d'histoire, on va dire, c'est toute la saga du roman bleu chez Michel Lafon, signé François Farge et Thierry Piantanida. Thierry Piantanida, le grand personnage, enfin moi ce que j'en ai retiré, après c'est peut-être une question de goût personnel, ça reste Tavernier hein, quand même.
Oui, c'est un personnage extraordinaire.
Tavernier qui est cet aventurier. Hein,
oui. Il était plus oriental que... qu'occidental, hein. 40 années passées en Orient, c'est tout le secret de sa réussite, il me semble bien. C'est-à-dire qu'il a, il a
un orientaliste avant la lettre.
Ah mais oui, complètement. Il s'est tellement fondu dans les mœurs locales que ça lui a ouvert bien des portes, parce qu'il a compris la mentalité, qu'il fallait prendre son temps, qu'il fallait pas se précipiter, qu'il fallait offrir des cadeaux. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, cet homme s'achète un château dans lequel il construit une tour qui regarde vers l'est. C'est parce que c'est
vraiment la passion de sa vie.
Oui.
On essaiera un jour de faire une émission aller sur le personnage parce qu'il mérite vraiment qu'on s'y attarde. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir si remarquablement fait briller ce diamant bleu. On retrouvera toute cette enquête dans le documentaire que diffuse Arte dès ce samedi. C'est à 20h40, donc. Ça s'appelle « À la poursuite du diamant bleu ». Vous vous êtes pas fatigué pour le titre, c'est sûr. C'était tout donné, si je puis dire. C'est un documentaire passionnant de bout en bout et je vous invite tous à le regarder. Nous nous retrouverons, nous, demain, à la Foire de Paris. Et en attendant, j'ai à mes côtés quelqu'un qui adore les diamants, forcément. Bonjour, Faustine.
Diamonds are the girl's best friend.
N'est-ce pas ?
Je trouve que je suis à fond dans l'accent, surtout. Bonjour, Franck. Bonjour à tous. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une baby shower ?
Non.
Vous savez pas ce que c'est ?
Non. Ben écoutez, c'est une histoire de douche, sans doute.
Voilà, une douche. Enfin, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. On va doucher de cadeaux la jeune maman. On va l'inonder de maman. Il s'agit d'une fête organisée en l'honneur d'une naissance à venir.
Mon Dieu.
Une tendance comme Halloween, hein, venue des États-Unis et qui séduit de plus en plus de Françaises. Alors, comment expliquer ce phénomène ? En quoi consiste cette fête particulière et très féminine ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Pourquoi les hommes y sont interdits ? Restez avec nous, vous allez le savoir. Et puis, on va parler de vos plus belle baby shower, également des différentes traditions à travers le monde dès qu'il y a une naissance qui s'annonce. C'est au 3921 si vous voulez témoigner ou nous raconter vos rituels dans votre culture. N'hésitez pas, faustine.europe1.fr et la page Facebook de l'émission.
Ce qui m'a plu dans ce que vous venez de dire, c'est que les hommes y sont interdits. Merci Faustine.
Mais ils sont bienvenus dans l'émission.
Et à demain Fatima.
À demain Franck.